Dimanche soir, nous connaîtrons donc les députés élus dès le premier tour, mais aussi tous les candidats qui s'affronteront dans des duels et des triangulaires avec une participation qui s'annonce historique. De nombreux candidats seront sans doute en capacité de se maintenir au second tour, vous l'imaginez, d'où l'importance des alliances et des désistements qui sont en train de se nouer. En ce moment, on va écouter la ministre Olivia Grégoire en parler.
Moi, je suis claire, j'ai déjà été claire il y a 10 jours. Donc je suis claire et j'attends pas les consignes. Figurez-vous que c'est incroyable, j'ai mon propre avis.
Et donc ?
C'est un truc de dingue. Ni RN, ni LFI.
Voilà, donc blanc.
C'est clair.
Non, ni RN, non, ni LFI.
Ni LFI. Ça n'est pas... Votre question, c'est RN, Front Populaire.
Ouais.
Front Populaire, c'est une alliance. Il y a dedans des socialistes, des communistes, des écologistes, des insoumis. S'il y a des socialistes, des écologistes, des communistes face au RN, j'appellerai, ce qui n'est pas mon cas, à voter pour eux. Si ce sont des insoumis, pour moi, c'est non.
Adrien Matteau, l'une des grandes interrogations sur ces consignes entre le premier et le second tour, c'est de savoir ce que va faire la majorité sortante si elle se retrouve troisième et néanmoins qualifiée. On est d'accord. Officiellement, pour le premier tour, on vient de l'entendre, c'est ni RN ni LFI. Ce sera aussi clair que ça au second tour, selon vous ?
Ah non, je pense que ça va. Alors déjà, vous avez raison de souligner que c'est important parce que je pense que ça va beaucoup arriver.
Oui.
La majorité troisième derrière RN et le Front Populaire, je pense que c'est un cas de figure qui va arriver dans de nombreuses circonscriptions. Et il y a deux questions qu'on peut se poser. La première, est-ce que le comportement des électeurs va varier selon l'identité du candidat Front Populaire ? Bon, ça, on peut sans trop s'avancer. Dire que voilà, quand c'est un candidat PS, on va plus facilement se porter sur lui que quand c'est un candidat LFI. Et la deuxième question, c'est est-ce que les électeurs vont écouter les consignes de députés ? Parce que les députés peuvent donner des consignes, mais les consignes de vote, c'est moins la mode qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnalités politiques qui disent « je ne donne pas de consignes » parce qu'un politique n'a pas à donner de consignes, en fait. Et les gens, est-ce qu'ils écoutent forcément comme s'ils appartenaient au candidat pour lequel ils ont voté au premier tour ? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser.
Nous sommes rejoints par Bernard Salanès, qui est président de l'Institut de sondage Elabe, et Christophe Barbier, éditorialiste politique de BFM TV. Christophe, pour qu'il n'y ait pas de majorité d'extrême droite, la Macronie a une chose à faire, c'est à sortir du nini et dire très clairement que la priorité des priorités, c'est d'empêcher le RN d'avoir une majorité absolue. Ces propos ont été tenus par Raphaël Glucksmann. Il a la moindre chance d'être, et ce soir, est-ce qu'il a la moindre chance d'être entendu par le président de la République ?
Par le président, non. Par les instances officielles du parti, non. Par des individus dans le parti, oui. Il y a une Macronie de gauche qui pourrait s'aligner sur cet adage-là, c'est-à-dire tout sauf le RN, quitte à devoir appeler à voter pour LFI. Mais l'essentiel de la Macronie, et notamment de ses instances officielles, sera sur ce qu'on vient d'entendre dans la bouche d'Olivia Grégoire, c'est-à-dire une sorte de nini. Raphaël Glucksmann est assez rusé parce qu'il essaye d'entraîner la Macronie dans la compromission qu'il a lui-même signée avec la France Insoumise. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord avec eux, mais quand même, ils sont moins mauvais, moins dangereux que le RN, et donc on peut faire des accords avec eux. Des accords de premier tour, Front Populaire, des accords de second tour, désistement républicain. C'est évidemment un piège. On voit à ce moment-là aussi la ruse de LFI. C'est de pouvoir dire, après le deuxième tour, s'il y a une majorité absolue RN, c'est à cause de ceux qui n'ont pas appelé à voter pour nous. Les quelques députés RN qui font la majorité absolue, ils auraient dû être battus par des LFI, mais Renaissance ou les LR ont soit maintenu leur candidat, soit ils n'ont pas donné de consigne de vote claire. Donc on voit bien comment on est dans un entrelac de pièges où chacun essaye de faire porter à l'autre la responsabilité d'une victoire RN qui n'est pas encore acquise. Parce qu'on pourrait dire à LFI, dans un jeu où vous êtes RN premier, LFI deuxième, Renaissance troisième, vous savez bien que vous clivez les LFI. Si vous êtes seul face au RN, les gens voteront pas pour vous.
Non.
Retirez-vous, bien que vous soyez deuxième. Le candidat Renaissance ou le candidat LR arrivé troisième va agréger vos voix et les voix de ses électeurs. Et là, ils peuvent battre le RN. Parfois, le troisième est mieux placé que le deuxième parce qu'il est moins clivant pour battre le premier. Est-ce que LFI est prêt à regarder les cas de figure où ça se posera ?
Bernard Salanès, ces alliances et ces désistements, ils seront d'autant plus importants que le nombre de triangulaires risque d'exploser, on l'évoquait il y a quelques instants, par rapport aux dernières législatives en 2022, on est d'accord ?
Ah oui, complètement, et ça pourrait même battre très nettement le record du nombre de triangulaires qui date de 1997, déjà pour une dissolution, il y avait eu 79 triangulaires. Là, on pourrait estimer, en triangulaire possible, hein, je dis bien possible, parce qu'après, il faut confirmer sa candidature, qu'il pourrait y avoir 150, 180, peut-être 200 triangulaires. Pourquoi possible ? Parce qu'après, il y a le retrait. C'est, avant de parler de consigne de vote, il y a est-ce que je maintiens ma candidature ou pas.
Absolument.
Et là, il faut quand même rappeler quelque chose. Bien sûr, le parti donne le soutien à son candidat, mais c'est le candidat qui décide s'il va en préfecture redéposer sa candidature. Oui. Ce n'est pas Paris qui peut dire...
Il y a un moment où c'est un acte individuel.
C'est ça. Paris peut dire « je vous demande de vous retirer ou je vous demande de vous maintenir », mais le candidat décide. S'il y a des fractions dans la majorité, peut-être que certains candidats braveront, c'est une hypothèse, les consignes et diront « je maintiens ». Voilà. Ça, c'est
je crois que ça n'est pas qu'une hypothèse.
C'est le premier point. Ces triangulaires, elles ont un impact mécanique. C'est vrai qu'elles renforcent les chances du Rassemblement national d'arriver à la majorité absolue. Pour autant, il ne faut pas oublier une chose, et on a un peu oublié en 2022, il n'y a eu que moins de 10 triangulaires, 7 oui. triangulaires. Donc ça veut dire que le RN a fait 89 élus dans 80 duels. Et oui. ce qui était longtemps impossible, le gain de RN, du RN en duel, est devenu possible. Donc là, on voit bien que s'il est possible, c'est que notamment face à la gauche, un électeur sur deux de Renaissance dit qu'il s'abstiendrait.
La participation s'annonce-t-elle vraiment historique, Bernard ?
Ah oui, elle s'annonce très forte. Alors on peut
pour des législatives.
Elle s'annonce très forte pour des législatives. On pourrait battre le record depuis 20 ans, c'est-à-dire de 2002, 64%. Ouais. Voilà. On pourrait atteindre soit ce chiffre, 64, 63, 65%. On voit bien que la mobilisation est ailleurs, sur un plan politique, elle profite à tous les camps. De la même manière, donc on voit bien qu'il y a des réserves de voix. Il y a des réserves de voix dans la majorité présidentielle qui n'avait un peu moins voté à l'élection européenne. Il y a des réserves de voix à gauche, notamment chez les jeunes. Et il y a des réserves de voix du RN chez les abstentionnistes qui se disent cette fois-ci, on peut peut-être y arriver.
Alors j'avais envie de vous dire aussi, à contrario, ça ne doit pas être facile de faire des enquêtes en ce moment non. et des sondages quand on va être confronté notamment à des triangulaires, voire des quadrangulaires, non ?
Oui, effectivement, c'est très difficile. La triangulaire est une hypothèse. Alors, vous avez plusieurs types de triangulaires.
Mais vous avez appris à biaiser ce genre de choses, vous, dans vos enquêtes ?
Ah ben, enfin,
biaiser.
Non, pas biaiser.
Vous avez compris. Non, mais attendez, j'ai employé un mauvais terme, mais à intégrer cela dans vos enquêtes. Voilà.
Oui, alors d'abord, les candidats ont depuis 15 jours, quand ils nous répondent, à ELAB pour BFM TV et pour la Tribune Dimanche, ils ont le nom de leur vrai candidat dans leur circonscription, premier point. Donc, c'est ce qu'on appelle l'offre réelle. Deuxièmement, ils peuvent nous leur poser une question qui est de leur dire au second tour, s'il y avait un duel, vous voteriez pour qui ? S'il y avait une triangulaire, vous voteriez pour qui ? Voilà. Après, il y a deux types de triangulaire. Il y a la triangulaire qui est assurée, c'est-à-dire que vous avez un camp qui s'est détaché avec 40% et les autres sont à 30 ou 25. Vous vous dites, quand vous voyez la photo du premier tour, il ne peut pas se passer grand-chose. Surtout que là, il y a cette fois-ci très peu de, qu'il me pardonne, de petits candidats. Et donc, le vote est très concentré dès le premier tour sur les blocs. Et puis, vous avez la triangulaire où c'est un peu très difficile, j'allais dire la bouteille à la mer. Vous avez trois blocs de 30% ou trois blocs de 33%, 31%. Là, effectivement, il peut y avoir des difficultés. Et là, l'impact psychologique d'être troisième est très mauvais. Parce qu'on dit en politique, les habitués de ces négociations électorales, de ces retraits désistements, disent la troisième place dans le triangulaire, c'est la place du mort. C'est vrai qu'on se remet... il y a des triangulaires qui ont été gagnés par le troisième, mais c'est très rare. Le fait d'être premier ou second donne une dynamique.
Adrien Matou, la nouveauté, c'est que plus la participation monte et plus le score du RN monte dans les sondages. D'habitude, c'est pas comme ça.
Oui, c'est vrai. Après, en fait, ça s'explique quand on regarde le détail de la participation, parce que moi, je constate qu'il y a une catégorie d'âge qui, pour l'instant, n'est pas vraiment mobilisée, c'est les jeunes. Les jeunes sont toujours à des chiffres très faibles de mobilisation et on sait que c'est une réserve de voix plutôt pour le nouveau Front Populaire qui peut exister. Alors moi, j'ai une hypothèse là-dessus, c'est que les jeunes n'ont jamais connu, en fait, c'est des électeurs 18 ans en 2024, vous êtes en 2006. Donc en fait, vous n'avez jamais connu des législatives intéressantes. Parce que, en fait, depuis 97, toutes les législatives sont en fait la confirmation de la présidentielle. Le camp qui a gagné y va, les autres sont démobilisés.
2022 a été une exception un peu.
Oui, mais avec un taux de participation quand même assez modeste, quoi. En fait, c'est plus le résultat qui était intéressant que la campagne et que la participation. Et donc, en fait, j'ai l'impression que les jeunes, il faut leur expliquer au maximum, en tout cas pour ceux qui veulent qu'ils aillent voter, il faut leur dire attention. Il peut arriver que des législatives soient importantes et intéressantes.
Ce vote de la jeunesse mérite d'être observé. Enfin, il aura un poids.
Il mérite d'être observé parce que la jeunesse militante se mobilise. On la voit dans la campagne. On la voit. Et donc, au soir du premier tour, au soir des résultats de second tour, il y aura forcément un émoi, une émotion. Oui. Et c'est la jeunesse aussi qui va le porter. On va le voir sur les campus, on va le voir dans la rue. Donc c'est important de regarder cette mobilisation de la jeunesse. Par ailleurs, la jeunesse, c'est aussi souvent des étudiants. Donc en ce moment, avec les examens, les départs en vacances, une partie peut-être des procurations qui ont été faites vient de ce camp-là. Et puis cette jeunesse, enfin, il faut qu'elle comprenne qu'il y a triangulaire et triangulaire. En 97, le RN avait réussi à beaucoup se qualifier pour le deuxième tour en arrivant troisième et en se maintenant à favoriser la victoire de la gauche. Là, le RN est en tête. Oui. Il ne s'agit pas pour eux de faire perdre qui ils choisissent. Il s'agit de gagner ou de ne pas gagner.
Alors, nous sommes rejoints par Magali Vicente, qui est communicante politique, dirigeante de l'agence Lidon, et spécialisée dans les conseils aux élus et aux collectivités. Les stratégies électorales là, pour ce second tour, elles se discutent maintenant. Comment ça se négocie concrètement et entre qui?
En termes de stratégie, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que communiquer, c'est la base des relations. Et on l'a évoqué. On est vraiment sur le champ émotionnel et notamment des jeunes. Et ça, ça va être une vraie proportion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le vote RN continue d'augmenter et qu'en face, on a le nouveau Front Populaire et Renaissance qui essayent immanquablement d'aller sur les bases de programmes et sur les mesures. Et ils ne comprennent pas que les voix du Front National continuent d'augmenter. Pourquoi ? Parce que quand on communique, communiquer, c'est la base des relations. Comment on fait une relation? On crée du lien. Et comment on crée du lien? Sur le champ émotionnel. Voilà. Et le RN, ça fait des mois et des mois qu'il communique sur le champ émotionnel. Il a fait d'un côté...
Qu'est-ce que vous appelez le champ émotionnel?
Le champ émotionnel, c'est la colère. C'est le réveil du patriotisme. C'est comment on va parler de cœur à cœur avec une personne. Et chaque mot, chaque posture va réveiller inconsciemment chez nous un certain nombre d'émotions. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, l'électorat du Rassemblement national s'est vraiment a augmenté et on est passé à un électorat... Alors, on a en plus en face un nouveau Front Populaire qui n'arrête pas d'attaquer en disant on est en fait sur des gens qui sont racistes.
Oui.
Plus on attaque sur le champ raciste, plus en face, ça réagit en disant « mais c'est moi que vous attaquez, je ne suis pas raciste, je suis patriote ». Et ça, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus de jeunes, on a de plus en plus de filles, on a de plus en plus de monde qui s'affiche avec le drapeau français en disant « moi, je suis patriote, je ne suis pas raciste et je vais voter Jordan Bardella ».
Alors Bernard Sananès, la coalition des modérés, qu'appelle de ses voeux Emmanuel Macron, ça reste un fantasme aujourd'hui où il y a une réelle opportunité selon vous?
L'arithmétique ne joue pas pour cette idée de coalition des modérés. Emmanuel Macron avait les cartes en main pour la réaliser encore plus qu'il ne l'a fait en 2017, mais surtout en 2022. Quand vous êtes à 20%, c'est très difficile de rassembler une coalition autour de vous. Il faudrait que, pour cela, la majorité actuelle présidentielle puisse remonter.
Je ne pensais pas à lui, je pensais à ce qui se passe dans la tête des Français, qui sont quand même, contrairement à ce qu'on pense, globalement, habituellement, des modérés.
Il y a une aspiration à cette modération, mais elle est pour l'instant minoritaire.
Voilà.
En fait, c'est comme si, je pense que si on élargit un tout petit peu, pour paraphraser la phrase connue de Manuel Valls sur les gauches irréconciliables, moi j'ai surtout le sentiment qu'on a aujourd'hui trois Frances qui sont difficilement conciliables.
Ah.
Voilà. Entre eux, et d'ailleurs, quand on voit que les reports, que les consignes de vote, etc., ne marchent pas, pourquoi? Parce que ces trois blocs, finalement, considèrent qu'ils sont ennemis. Chaque bloc considère qu'il est ennemi des deux autres.
Oui.
Et donc, dans ces Frances irréconciliables, c'est très difficile de se dire, bah, finalement, je vais voter pour l'autre.
Je vous ai vu acquiescer tout de suite, Adrien Matteau.
Oui, parce que, en fait, c'est des Frances qui sont très éloignées en termes de valeurs, mais j'ajouterais que même géographiquement, se côtoient très peu.
Ah, c'est intéressant.
Quand on regarde les cartes des votes, il y a beaucoup de circonscriptions où il n'y a pas beaucoup de suspense parce qu'un camp fait un score énorme. Et quand vous allez, j'étais hier dans l'Oise en reportage avec un candidat RN, les gens qui vont voter dans cette circonscription, ils croisent peu de gens qui votent Front Populaire. Ils croisent peu de gens qui votent Renaissance. Il y en a même qui me disent, mais c'est un complot le score de Macron. Moi, je connais aucun, je connais personne dans mon entourage qui vote pour Macron.
Ah oui, le terme de complot a été utilisé devant vous.
Oui. Après, c'était un peu sur le ton de l'humour. C'était vraiment genre...
Non, mais le second degré, c'est le second degré.
Le second degré. Mais, non, mais c'est quand même révélateur. Et je pense que y a, dans les grandes métropoles ou dans les facs, les gens doivent se dire, mais... Comment le RN peut être à 40%? Moi, je ne connais pas un seul étudiant qui vote RN. Et dans les coins un peu bourgeois de Paris, on doit se dire, mais comment c'est possible que la majorité ne soit qu'à 20%? C'est quand même des Frances qui sont éloignées en termes de valeurs et même qui côtoient peu les autres. Et c'est voilà, il y a un clivage et c'est le blocage qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a trois Frances. Normalement, il y en a deux dans le système politique français. Il y a un bipartisme.
C'est pas fait pour.
Voilà, là, il y a trois Frances qui se comprennent très peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rapprochement.
Christophe Barbier. D'abord, cet aspect-là va être aggravé dimanche soir par l'élection au premier tour d'assez nombreux députés. En 2022, beaucoup avaient fait 50% et plus, mais ils n'avaient pas fait 25% des inscrits à cause de l'abstention. Ils ont dû faire un deuxième tour. Là, on va avoir, dès dimanche soir, des élus, notamment côté LFI et côté RN. Ils vont aller à l'Assemblée le lundi ou le mardi, prendre leur mallette et se montrer. Donc on va avoir l'impression que dans ce jeu à trois, il n'y en a que deux. Comme disait Bismarck, dans un jeu à trois, il faut être l'un des deux. Donc ça va fausser cela. Puis deuxième remarque, je m'interroge sur... On parle de trois blocs. Mais il y a un petit caillou encore à côté. Ah. C'est les Républicains. Ouais. Ils sont à 7%. Ils vont être troisième dans un certain nombre d'endroits. Mmh. Ils vont être éliminés aussi dans beaucoup d'endroits. Que vont faire leurs électeurs ? S'il y a en second tour RN, Front Populaire, ou bien RN, Front Populaire, Renaissance, que fera le résidu d'électeurs républicains ? Fâché avec le RN parce que Ciotti a trahi, pas du tout envie de sauver Macron et détestant le Front Populaire. Ça va être complexe pour eux.
Bernard Salanès. Déjà, ils ne sont présents que dans les LR Canal Historique, ils ne sont présents que dans 60% des circonscriptions, ce qui fait des comparaisons un peu difficiles, parce qu'il faut rapporter le 7 ou 8% des différents sondages, effectivement, à une part qui est coupée, amputée de moitié quasiment de présence. Premier point. Deuxième point, LR a un problème à la fois de dynamique, mais il a un problème également de division. C'est vrai que le camp majoritaire n'a pas eu d'alliance avec lui, le camp de la majorité du président n'a pas d'alliance avec lui, mais il a une union qui, au moins de façade, se maintient. LR a vécu en direct, et nous on l'a tous vécu, et notamment sur vos plateaux, une division, un éclatement, un écartèlement qu'il n'avait pas connu depuis quelques années, qu'il vivait depuis quelques années, mais dont la symbolique là a été extrêmement forte. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les enquêtes. Quand on demande aux sympathisants LR, pour qui voteriez-vous au second tour, quand ils n'ont pas le choix de revoter LR, ils sont partagés entre ceux qui nous disent « je voterai RN » et ceux qui nous disent « je voterai ensemble ». Mais, et c'est pour ça que l'histoire n'est pas terminée, ce sont les indicateurs, les reports de second tour qui peuvent bouger entre les deux tours, en fonction, Christophe l'évoquait, de ce qui va se passer. Si le RN arrive en tête dimanche soir, si les uns et les autres font des projections disant le RN proche de la majorité absolue, effectivement, il va y avoir un effet dans le pays qui peut soit provoquer des troubles, et à ce moment-là, le RN peut aussi en profiter en matière d'ordre, soit mobiliser les jeunes, les forces de gauche, etc., etc.
Est-ce que les électeurs LR vont être d'une certaine façon quand même ceux qui feront basculer les choses, les arbitres de ces législatives si particulières ?
Dans certains endroits, oui, ça pourra jouer. On a bien vu que Éric Ciotti avait été suivi par très peu de cadres, mais que dans l'électorat, sa démarche était un peu plus
évident.
Donc il y a un tuilage entre l'officiel et le réel qui n'est plus vraiment mesuré ni contrôlé au sein des Républicains.
Magali Vicente, la campagne pour le premier tour s'achève donc demain à minuit. Est-ce que ces trois semaines n'ont pas été trop courtes pour faire à la fois bouger les lignes ? Enfin, est-ce que les programmes ont vraiment eu le temps, d'après vous, d'être scrutés ? Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin de l'aide dans l'esprit des Français qui vont aller voter ? Je vous vois déjà me faire un signe de dénégation avec la tête.
Non, absolument pas. Alors bien sûr, il va y avoir quelques cibles parce qu'il y a une partie des gens qui sont beaucoup plus réceptifs à la notion programmatique, aux chiffres et à la projection. Mais sinon, la grande majorité des gens, déjà, en plus avec les européennes qui avaient fait effet, qui avaient porté en fait la dynamique, forcément, la majorité des gens ont été portés par les valeurs, par toutes les émotions qu'ils ont vécues pendant ces européennes. Et là, c'est absolument pas en trois semaines. Et je parle surtout parce que moi, j'ai l'habitude d'accompagner des parlementaires et on voit bien les parlementaires qui vont survivre entre guillemets, notamment chez les Républicains, sont ceux qui auront eu le temps et qui auront vraiment été implantés sur leur territoire et qui auront eu le temps de créer du lien avec les citoyens et que ces citoyens-là leur fassent confiance malgré tout ce qui est en train de se passer, confiance en fait au fait que leur député est là pour eux, les représente vraiment, et ce lien-là va être fondamental. Les autres, comme ceux malheureusement aussi de Renaissance, ceux qui n'auront pas du tout créer de lien sur le territoire, et je peux vous dire qu'il y en a, parce que j'ai discuté avec beaucoup de certains d'entre eux, ils connaissent pas du tout, pour certains, leur cible électorale. Bah là, ils sont arrivés en 2017 et vont repartir comme ils sont arrivés.
C'est très important parce que la résistance des sortants, particulièrement de LR, mais de tous les sortants, c'est ce qui fait la différence entre une victoire et une vague. En 1993, c'est la plus grande majorité de droite que le pays a connue, près de 4 sièges sur 5. Tous les ténors du PS, je ne sais pas si vous en souvenez, tous les ténors du PS sont battus. François Hollande est battu dans sa circonscription.
Lionel Jospin
est battu dans Haute-Garonne. Dominique Strauss-Kahn est battu. Jean-Christophe Cambadélis est battu. Voilà. C'est un raz-de-marée parce que l'équation des sortants, finalement, compte peu. Là, il faut rappeler que l'élection législative, contrairement à ce que j'entends souvent, l'élection législative, c'est une élection nationale à 80-90%. Mais ce petit coefficient local, il a permis, par exemple, à pas mal de députés LR en 2022, de s'en sortir, alors que Valérie Pécresse, dans leur circonscription, avait fait 5%, et eux, ils réussissaient au premier tour législatif, qui pourtant intervenait un mois après,
c'est mon député,
à faire 15, 20, 25%, et donc à se qualifier pour le second tour.
Et puis ils ont souvent été ou sont encore élus locaux. Est-ce que la Macronie a complètement raté lors des municipales de la dernière fois ? C'est cet ancrage. Et ils vont le payer très cher cette fois-ci. Aucune raison de reconduire un sortant qui n'est que la traduction du président dont on ne veut plus. Alors que s'il avait été conseiller général, maire pendant un certain temps, il y aurait un attachement.
Vous observez la même chose.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mesurer l'implantation locale des députés Renaissance qui étaient qualifiés de Playmobil, juste là pour exécuter les volontés du gouvernement. Parce que là, en fait, ils vont faire des campagnes d'élus locaux. Parce qu'ils ne mettent pas Emmanuel Macron sur l'affiche.
Oui.
Et certains ne mettent même pas Gabriel Attal sur l'affiche.
Souvent, ils mettent leur suppléant, parce que c'est un maire du coin.
Voilà. Oui. Ah, très bien.
Moi, j'en ai plein qui m'ont dit, je vais faire campagne sur mon nom, etc. Mais en fait, ça va être un test. Le premier test qu'ils vont avoir depuis 2017 et leur entrée en politique pour beaucoup, de leur implantation locale, dans un contexte en plus très défavorable sur le niveau national. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont souffrir, qui vont être très tristes dimanche soir.
Alors que pour le RN, c'est l'inverse. On peut ne pas mettre sa photo. Si on met celle de Bardella, ça sert à faire des voix.
Merci à tous.